Vous écoutez France Culture.
Et sur France Culture, il est 8h16. Nous sommes toujours en compagnie de François Burga, politologue, directeur de recherche au CNRS, qui publie aux éditions La Découverte, Pas de printemps pour la Syrie, les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise. C'est un ouvrage collectif que vous dirigez avec Bruno Paoli. Pas de printemps pour la Syrie, ça fait évidemment référence aux printemps arabes de 2011, mais c'est aussi presque une forme de pari sur l'avenir, c'est de se dire que pas de printemps pour la Syrie, le printemps 2014 pourrait bien être un printemps à peu près identique à celui de 2013 et de 2012 pour la Syrie. En tout cas, est-ce que vous diriez qu'il y a des indices aujourd'hui qui permettent de dire que la situation pourrait considérablement évoluer dans les prochains mois ?
Pour l'instant, il faut rappeler une erreur substantielle que nous commettons régulièrement, qui est d'extrapoler la supériorité militaire du régime qui s'est affirmée indiscutablement au cours de l'année écoulée, qui s'est explicitée avec son assise sociale. Donc ce n'est pas parce que le régime marque à coups de canon et d'obus des points sur la scène militaire intérieure qu'il gagne les cœurs de la population. Ça, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qui peut se produire à échéance des mois à venir ? Qu'est-ce qu'on a ? Un processus de négociation dont l'inconvénient est qu'il risque fort de ne pas amener à la table de négociation les acteurs qui ont la réalité du pouvoir militaire à l'intérieur. On y reviendra. Mentionnons tout de même un autre épisode qui pourrait servir de prétexte à une évolution, à mon sens, cosmétique. Ce sont les élections présidentielles de 2014 en Syrie. Donc l'idée que s'il y a une volonté, je dirais, parmi les sponsors étrangers, pas parmi le régime, je n'y crois plus, mais si les Russes décident que le dossier syrien serait plus facile à gérer si le fusible du sommet du système sautait, il n'est pas complètement invraisemblable qu'il y ait cette modification-là du paysage institutionnel, c'est-à-dire que pour Bachar l'Assad cède la place.
Voilà, Bachar l'Assad, pour l'instant, laisse entendre qu'il pourrait être à nouveau candidat présidentielle.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'emploie le plus prudent des conditionnels. Mais disons, voilà ce qu'on a à très court terme. Un processus qui va expliciter le dysfonctionnement de l'aide internationale à l'opposition syrienne, qui est que nous nous sommes concentrés sur l'opposition politique en exil, sur laquelle nous avons de surcroît fait peser des exigences qui étaient disproportionnées avec ce qu'elle pouvait raisonnablement nous fournir comme garantie à l'époque. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de êtes-vous sûr que vous représentez bien chaque mètre carré du territoire ? N'y a-t-il pas un islamiste qui se serait glissé parmi vous ? Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, à force de vouloir modeler cette opposition politique en exil sur nos attentes volontaristes, nous l'avons coupée du tissu médian, du tissu politique médian du pays. Mais nous allons donc avoir un processus de négociation qui va se tenir, bien sûr, à l'étranger, qui va paradoxalement exclure l'Iran. Et Dieu sait que je ne me félicite pas du rôle de l'Iran dans ce conflit, mais si on fait un processus de négociation, on amène tout le monde à la table de négociation, et qui va malheureusement rester très vraisemblablement coupé des commandants militaires qui font 70% du rapport de force à l'intérieur. Donc on n'attend pas grand-chose, mais ce qui peut se produire à moyen terme, c'est une évolution du rapport de force au sein des soutiens étrangers de l'opposition syrienne.
Ce processus de négociation, ce sera notamment la conférence Genève 2 qui doit avoir lieu le mois prochain en Suisse. C'est programmé le 22 janvier. Alors vous disiez, ça se fera probablement sans l'Iran, encore que rien n'est encore décidé. Ce qui peut paraître assez étrange, c'est que l'Arabie Saoudite, elle, fait partie des pays qui sont invités. Est-ce qu'on peut imaginer une négociation internationale aujourd'hui sur la Syrie qui se déroule avec, d'une part, l'Arabie Saoudite, qui est un acteur important de ce conflit, acteur indirect mais acteur important, et sans l'Iran? Est-ce que ça ne serait pas une aberration totale?
C'est comme je pense, je viens de le dire, à mes yeux, ça apparaîtrait comme une aberration, d'autant plus que, si on veut être optimiste, mais ce n'est pas du tout la seule perspective possible, nous allons avoir un Iran qui pourrait avoir changé d'état d'esprit dans la mesure où il évoluerait dans une configuration internationale qui lui serait moins systématiquement hostile si l'accord nucléaire portait tous ses fruits. Pour l'instant, le blocage américain sur la présence de l'Iran apparaît comme assez paradoxal. Mais encore une fois, la plus importante des contradictions, c'est que les forces politiques en exil ont une relation relativement fragile que nous ne leur avons pas permis de renforcer en les laissant se crédibiliser par des transferts essentiels de finances et d'armes. Donc les forces qui représentent l'opposition ne sont pas en symbiose avec les commandements militaires sur le terrain.
Vous disiez il y a un instant, François Burga, que l'allié russe de la Syrie pouvait peut-être décider à un moment que... pour assurer une transition dans le pays, pouvait faire en sorte que Bachar al-Assad ne soit plus à la tête du régime. Est-ce que les presque trois années de conflit que connaît le pays ont montré que Bachar al-Assad pouvait justement être manipulable par à la fois la Russie et par l'Iran, ou bien est-ce qu'on n'a pas plutôt la démonstration du contraire, c'est-à-dire que le président syrien, aujourd'hui, de toute manière, fait ce qu'il veut, lui et son clan, et qu'il n'est pas question, il ne sera jamais question pour lui de capituler.
Voilà, ce qui est très important, c'est de dire lui et son clan, parce qu'on peut très très bien imaginer un dispositif interne que cyniquement, son clan déciderait d'avoir un autre ambassadeur. Mais ce qui n'est pas imaginable, c'est d'écarter le clan. Parce que ce qui n'est pas imaginable non plus, c'est que ce régime se réforme. On ne comprend pas très bien ce que veut dire se réformer. Se réformer, ça veut dire modifier le mécanisme de distribution des ressources politiques et économiques et financières d'un groupe de personnes vers un autre. En clair, ça veut dire que vous décidez sereinement de vous couper un bras ou de vous couper une jambe. Et ça, aucun système ne le fait. Donc on n'aura pas un processus de réforme de ce système. J'ai envisagé avec la plus grande prudence, l'idée qu'il y ait un renouvellement à la tête, ça serait vraiment cosmétique, ça serait une attitude, une manœuvre stratégique. Et les Russes ont montré avec l'accord sur les armes chimiques qu'ils étaient capables de ce genre de dispositif relativement sophistiqué. Mais il me paraît actuellement invraisemblable que ce régime se réforme. C'est pour cela qu'on a pour l'heure toutes les raisons d'être très pessimiste quand on regarde l'état du rapport de force sur le terrain.
Est-ce que ça veut dire donc envisager aujourd'hui une solution politique qui inclut Bachar al-Assad, c'est quelque chose justement d'inenvisageable, offrir par exemple une porte de sortie honorable, alors je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre derrière le honorable, mais à Bachar al-Assad, ça c'est quelque chose qui ne pourrait pas être accepté par le clan qui dirige la Syrie aujourd'hui
Par le clan qui dirige la Syrie, il est peu concevable qu'il accepte de scier la branche sur laquelle il est assise. Donc, il n'est pas concevable qu'il accepte de perdre le contrôle du noyau dur des forces de sécurité et des mécanismes de distribution des hauteurs dominantes de l'économie. Et il est peu concevable, si ce n'est par vous et par moi, ça ne mange pas de pain de dire que nous sommes favorables à une solution politique, mais pour ce qu'on sait de l'état d'esprit des combattants sur le terrain, absolument personne maintenant n'imagine une solution négociée qui ne passerait pas par l'éviction de Bachar el-Assad. C'est pour cela que nous sommes actuellement dans une situation d'impasse. Alors il y a deux portes de sortie, il y a l'écrasement militaire d'un camp ou de l'autre. Il est peu concevable. On sait que la pression militaire est forte sur l'opposition, mais on est loin, on est très loin d'une situation qui permettrait d'imaginer son effondrement. Donc, pour l'instant, nous sommes dans une situation d'impasse.
Il y a un an, François Burga, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, disait ceci. Je pense que le régime de Damas est proche de l'effondrement. Je pense que ce n'est plus qu'une question de temps. Est-ce que vous diriez, à contrario qu'aujourd'hui, Bachar al-Assad est plus puissant, plus fort qu'il ne l'était il y a un an?
Je pense qu'on est tous obligés de nuancer des perceptions qu'un grand nombre de nous ont exprimées, que le régime était miné de l'intérieur. Je voudrais tout de même prendre le temps de citer une toute petite anecdote ramenée de Zaatari pour qu'on comprenne bien le mécanisme de la militarisation, comment ça a fonctionné, le soutien apporté au régime. Au camp de Zaatari, je me suis entretenu avec un capitaine de la garde républicaine, c'est-à-dire le noyau dur, l'élite militaire du régime, et on lui a demandé pourquoi vous avez fait défection. Il a dit j'ai fait défection très vite, la troisième semaine de la révolte, parce qu'à la deuxième semaine, nous avions été convoqués lors d'une manifestation à Douma, et il nous est arrivé un épisode assez curieux. Nous n'étions pas armés. Nous surveillions la manifestation, mais nous n'étions pas armés, et nous nous sommes fait tirer dessus par des gens en civil sur le sommet d'un immeuble. Nous sommes revenus la semaine suivante en armes. Nous avons encerclé l'un des immeubles d'où on tirait à la fois sur les manifestants et sur les forces de l'ordre. Nous avons tué 8 personnes. Nous avons eu l'incroyable surprise de découvrir que c'était tous des hommes de Hafez Mahlouf, c'est-à-dire de la sécurité d'État, c'est-à-dire très très proche du président. Et nous avons compris à ce moment-là quelle était la stratégie du régime. Ils tiraient à la fois sur les manifestants pour les dissuader de manifester et sur les forces de l'ordre pour les convaincre qu'elles étaient bien les cibles d'un complot venu de l'extérieur, mobilisant des groupes sectaires étrangers. Donc il faut savoir que ces moyens d'une terrifiante violence ont été employés pour radicaliser les forces armées et qu'ils ont jusqu'à un certain point réussi.
Et ces moyens-là, donc, ils bénéficient aussi, on en a parlé, du soutien de puissants alliés que sont la Russie et l'Iran. Et vous dites aussi dans votre livre, et alors ça m'a un petit peu intrigué, vous dites qu'à cette liste déjà longue des alliés du régime syrien s'ajoute le camp puissant des régimes rescapés de la première vague des printemps arabes. Bon, ça, d'accord, donc il y a Bahreïn, le Maroc, la Jordanie, mais aussi, écrivez-vous, la puissante confrérie des dictateurs sans frontières qui œuvre pour préparer la contre-révolution qui doit les ramener au pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des alliés de Moubarak, des alliés de Ben Ali qui sont en train d'organiser une contre-insurrection dans le monde arabe aujourd'hui ?
Ah ben c'est une évidence, c'est une phrase que j'ai écrite avant que le général Sisi accède au pouvoir. Donc on savait très bien, c'était un secret pour personne, que les forces qui avaient été marginalisées par la protestation populaire tunisienne, égyptienne, égyptienne, etc., était rentrée dans les coulisses, mais n'avait pas abandonné l'idée de reprendre le pouvoir, et surtout dans des pays comme l'Algérie, dont on sait qu'il a essayé de prévenir la chute de Kadhafi, mais également, ne nous leurrons pas, dans des pays comme le Maroc. On a hâte de démontrer qu'une mobilisation populaire, du type de celle qui a renversé Ben Ali, n'est pas nécessairement universelle et n'a pas vocation à s'exprimer dans toute la région. Donc on sait très très bien, la configuration est complexe parce que les Émirats Arabes Unis soutiennent explicitement et activement les militaires égyptiens et sont en lutte contre les gouvernants tunisiens. Dans le même temps, ils seraient plutôt dans le camp qui est hostile à Bachar el-Assad. Mais dans le camp de Bachar el-Assad, il y a effectivement un certain nombre de régimes. L'Algérie, pour n'en citer qu'un, hein, que j'appelle affectueusement dictateur sans frontières, qui souhaite que l'on puisse convaincre les populations de cette région du monde qu'il faut abattre le régime, que ce fameux slogan n'est pas tout puissant dans la région, dans la conjoncture où nous nous trouvons.
Donc ça, c'est une confusion qui profite à Bachar el-Assad aujourd'hui.
Absolument.
Alors, pour évoquer, vous l'avez déjà esquissé tout à l'heure dans la première partie de cet entretien, mais la confessionnalisation de ce conflit. Vous décrivez bien le processus qui a été mis en œuvre par le régime syrien, de transformer une menace au départ fictive en menace réelle, et vous pointez un paradoxe important, qui est celui de ce régime bassiste syrien qui se vantait d'avoir imposé la laïcité, d'être un régime laïque dans le monde arabe. Et vous dites que c'est en exploitant, au contraire, les vieilles fractures confessionnelles et ethniques que le régime va réussir à entraver la cohésion montante des protestataires. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Syrie était moins laïque qu'on ne l'imaginait et que Bachar el-Assad l'était peut-être lui aussi moins et qu'il a pu facilement jouer sur des divisions qui étaient peut-être mises en sommeil mais qui étaient quand même là.
Très très exactement ce que vous venez de dire. Vous avez employé un mot qui est essentiel. Vous avez dit qu'il avait imposer la laïcité. C'est-à-dire qu'on peut maintenant, a posteriori, c'est extrêmement facile, prendre la mesure de ce qu'il y avait de factice dans ce paysage œcuménique, consensuel, tout visiteur, y compris d'ailleurs l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui se rendait en Syrie, disait « Mon Dieu, j'étais dans les vieilles villes, et il y a des mosquées jusqu'à côté des églises, et tout ça a l'air de très bien fonctionner. » Ce qu'on ignorait, c'est que la mosaïque des appartenances confessionnelles, musulmanes, chrétiennes ou ethniques, kurdes, tenaient ensemble par le fait, par la magie d'un ciment autoritaire davantage que par le résultat de la construction d'un lien fabriqué par le bas, accepté, voulu d'un lien politique dans tout ce que cela a d'ambitieux. Je prends souvent la comparaison entre deux morceaux d'un même territoire, le Liban et la Syrie. Historiquement, c'est nous qui donnons un coup de ciseau dans un tissu confessionnel et ethnique qui est unique. Au Liban, on a eu une phase de guerre sectaire. Je te tue, tu me tues parce que tu n'as pas la même appartenance primaire que moi. Et nous avons abouti difficilement, douloureusement, et le processus n'est pas fini, mais à des situations où la moitié de la communauté chrétienne peut décider de faire un bout de chemin électoral avec le Hezbollah chiite. Mais c'est un lien qui est voulu par le bas, qui est assumé. En Syrie, nous avions une imposition de la coexistence au nom d'un dénominateur commun qui n'était pas religieux, surtout pas, qui était linguistique, qui était ethnique, qui était l'arabisme. Mais derrière ce vernis d'unité arabiste, il y avait des tensions sectaires qui étaient tout à fait observable dans le livre. Je cite, pour balayer un petit peu devant ma porte, que les chrétiens ne sont pas nécessairement les derniers à être capables de tenir des discours sectaires sur les autres. Et je cite ce prêtre qui nous disait que la loi satanique menaçait la Syrie. Il évoquait pour lui la présence croissante des musulmans dans le tissu national. Donc oui, effectivement, la crise a fait voler en éclats le ciment unitaire national syrien, et lorsque le ciment unitaire de l'État vole en éclats, eh bien on se raccroche à des appartenances infranationales. On se raccroche à son clocher, à sa mosquée ou à son identité ethnique, c'est le cas pour les Kurdes.
Mais est-ce que ça n'est pas extrêmement inquiétant, alors ça, ce phénomène-là que vous nous décrivez, pour la suite? Imaginons que la rébellion syrienne l'emporte sur le régime de Bachar el-Assad. Elle l'emportera avec l'appui d'un certain nombre de groupes djihadistes qui ont pour objectif d'instaurer un régime islamiste en Syrie. Est-ce que ça veut donc dire que la capacité de résistance des Syriens, c'est ce que disent peut-être les plus optimistes, en disant finalement, une fois que le régime de Bachar el-Assad sera tombé, on sera bien capable de gérer politiquement cette menace djihadiste. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être une friabilité plus importante que ce qu'on imagine et que ça ne sera pas si facile que ça de lutter contre ces groupes-là?
Il ne faut pas nier la réalité de cette existence. Il ne faut pas la simplifier, il ne faut pas la criminaliser de façon simplificatrice. Il y a bel et bien des, je les appelle, des laissés pour compte de la politique du XXe siècle qui ont un projet qui n'est plus le projet national de coexistence des appartenances primaires, mais qui est l'imposition ou en tout cas le regroupement autour d'une appartenance religieuse qui serait en l'occurrence celle des sunnites, hein, et qui s'exprime. Qu'est-ce que c'est qu'un djihadiste? C'est quelqu'un qui se bat dans une temporalité qui n'est pas celle du conflit syrien, dans une territorialité qui n'est pas celle du conflit syrien. Il se battait avant, il se battra après. Il se battait ailleurs, il continuera à se battre ailleurs, au service de la construction d'un État régional musulman. Ils existent. Mais on peut tout de même rappeler que la division confessionnelle, la division ethnique, c'est le propre de toutes les sociétés de la Terre, et tous les processus de modernisation politique sont toujours passés par notre capacité à établir un lien politique supérieur aux appartenances primaires immédiates. Le Savoyard accepte de faire un bout de chemin avec le Haut-Savoyard et avec le Breton. Donc ça, c'est l'histoire du monde. Rien ne permet de dire, d'affirmer maintenant que la Syrie est incapable de maintenir la réalité de ce processus de modernisation, c'est-à-dire de maintenir le lien politique entre des gens dont l'appartenance religieuse primaire, alaouite, druze, chrétienne de toutes les nuances possibles imaginables ou musulmanes, est différente. Et pour ce qu'on sait de la société syrienne, le tempo majoritaire dans la société n'est pas celui de la radicalisation sunnite extrême. On a toutes les raisons de penser que si le processus politique reprenait ses droits, c'est-à-dire si la majorité de la population était en situation de se prononcer, on aura, me semble-t-il, un processus comparable à ce qui se passe en Libye. On dit parfois la Libye, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. C'est un processus où le lien local a repris une importance qu'ils n'avaient plus.
Enfin, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas non plus une situation.
C'est une situation difficile. Et personne de responsable peut dire que nous aurons des lendemains faciles en Syrie au lendemain de cette séquence militaire. Mais rien ne permet d'affirmer aujourd'hui que c'est la frange radicale qui s'exprime dans les groupes djihadistes qui serait en mesure d'affirmer son ascendant sur l'ensemble de la société.
À tout dépend dans quel état sera cette société lorsque la guerre s'achèvera. Dans votre livre, François Burga, Pas de printemps pour la Syrie, alors il y a un certain nombre de chercheurs, et vous dites, alors il y a certains qui ont une vision plutôt optimiste, d'autres plutôt pessimiste. Est-ce que vous diriez que la société civile syrienne a malgré tout, depuis ces presque 3 années de conflit, montré une forme de solidité, ou bien est-ce qu'aujourd'hui elle est totalement détruite et donc entièrement à reconstruire?
Alors, j'appartiens désespérément à la catégorie des optimistes. Mais j'aimerais vous citer les commandants militaires que j'ai rencontrés à Zaatari il y a un mois et devant lesquels je me faisais porteur de cette interrogation que vous venez d'énoncer maintenant. Je disais, mais la réputation de... Et le monsieur m'a dit, mais écoute, viens chez nous, viens voir les gens de Jebhat Nusra, puisque je lui disais, Jebhat Nusra, c'est l'épouvantail absolu. Il me dit, mais ils ont des druzes qui combattent avec eux. S'ils étaient aussi sectaires que tu me le dis, comment pourraient-ils admettre des combattants druzes? Viens te battre avec moi, viens regarder ce que nous faisons, viens que tu sois chrétien à la huit et tu jugeras sur pièce. Et je pense que la force mentale que l'on voit chez les combattants, cette espèce d'optimisme lumineux de ce monsieur qui a 7 balles dans le corps, qui a été blessé 4 fois, qui est perçu par l'environnement occidental comme un islamiste, puisque je les ai entendus discuter entre eux et l'un d'entre eux disait « il va peut-être falloir qu'on change de nom ». Donc pour maintenir la confiance avec l'environnement occidental, il savait que ce vocable « Ahl Sunna », les gens de la Sunna, était considéré maintenant comme criminalisé par l'environnement occidental. Il fallait peut-être qu'ils en changent de nom. Et je vous assure qu'il y avait quelque chose de violent de voir ces combattants à l'égard, dont on devinait très vite qu'ils n'étaient pas des monstres sectaires, mais des gens engagés dans un processus de lutte extrêmement violente, être criminalisés instinctivement par chacun d'entre nous, hein, par l'opinion publique occidentale. Donc je pense qu'on peut rester raisonnablement optimiste sur la capacité de la société syrienne à se réconcilier avec ses institutions politiques en produisant des formes de gouvernement qui soient compatibles avec la vie humaine dans la région.
Alors, François Burga, il n'y a pas que les combattants islamistes qui combattent contre le régime de Bachar al-Assad, qui sont criminalisés par l'opinion publique occidentale. Il y a aussi ceux qui continuent de soutenir le régime syrien, extrêmement discret et sans doute par notre faute à nous aussi, aux journalistes, à qui nous avons peu donné la parole. On commence à voir dans Paris, notamment, des affiches qui soutiennent Bachar el-Assad. Et cette violence que peuvent ressentir un certain nombre de Syriens en étant dans le mauvais camp aujourd'hui, il est un petit peu des deux côtés, et bien c'est le témoignage que je vous propose à présent, celui de Ragida Al-Khoury, pardonnez-moi, Ragida Al-Khoury. C'est une Syrienne qui est arrivée en France il y a 6 ans, c'est une religieuse, elle est chrétienne. Elle soutient le régime, tout comme sa famille restée à Damas. C'est un témoignage recueilli par Tiffaine de Roquigny.
Je me sens impuissante, je ne peux pas faire arriver ni ma voix, ni ma pensée. Tout de suite, quand tu es syrienne, oui, votre président qui est dictateur, qui est assassin, je dis arrêtons avant de juger comme ça, il faut vraiment être lucide et conscient de ce qui se passe vraiment. Quand le 11 novembre, des obus pleuvent sur les écoles chrétiennes et je perds un petit neveu avec 4 de ses collègues qui sont en CP et en CM2 devant sa sœur, ben, les gens sont choqués. Ils disent ben, quelle est leur faute, ces enfants qui sont à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Dans quelle démocratie et quelle liberté et quelle paix? Non, je souffre quand même de la non-réaction et du silence. J'essaie de ne pas trop manifester ma souffrance autour de moi. Soit on me traite de raciste, parce que comme je suis chrétienne, donc, et les rebelles sont musulmans. Donc voilà, vaut mieux des fois garder sa pensée et sa réaction, même si je suis impuissante, je ne peux rien faire. Donc je dois parler quand même.
Bon, François Burga, si on veut trouver une solution en Syrie, il va aussi falloir être capable de prendre en compte cette souffrance d'une partie des Syriens, ceux qui ont continué à soutenir Bachar el-Assad.
Oui, c'est une évidence. Et on a parlé des chrétiens dont le statut est plus complexe que pourrait nous le laisser penser cette religieuse, parce que si la hiérarchie chrétienne s'est assez systématiquement maintenue du côté du régime, il y a un bel exemple. Nous publions dans le livre le témoignage de quelqu'un qui est aussi chrétien que la religieuse que nous venons d'entendre, qui a vécu la crise syrienne comme un chrétien et qui publie néanmoins un appel aux évêques de Damas et qui leur dit « il y a du sang sur vos autels » rappelle que les bombes sur les écoles, c'est pas un marqueur de l'action de l'opposition, ça a été une action fondatrice du régime. Les bombes sur les écoles, c'est l'artillerie lourde du régime avant d'être la contre violence extrêmement tardive et souvent aléatoire. On ne sait pas très bien toujours qui tire sur qui quand l'enjeu chrétien est mobilisé, parce que le drapeau chrétien que l'on brandit devant l'opinion publique occidentale, on sait qu'il a été l'objet de manipulations. Donc ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est les alaouites, bien sûr. Le cœur du dispositif qu'il faut trancher, c'est la survie de cette communauté dont Bruno Paoli, dans l'ouvrage, montre qu'elle est en fait divisée, qu'elle a été prise en otage par une crise et que l'on ne peut se contenter de stigmatiser sa proximité du régime. Oui, bien sûr, la crise syrienne divise. Vous avez dit qu'elle peut diviser même les chercheurs. Elle divise l'opinion militante occidentale. Et il faut prendre le temps de le dire. L'un des problèmes de l'opposition syrienne, c'est que toute une composante de la militance occidentale ne se résout pas à soutenir une mobilisation populaire qui est soutenue par l'émir du Qatar, par l'Arabie Saoudite, par le Premier ministre britannique et par, je dirais, Bernard-Henri Lévy. Comment peut-on soutenir une force politique qui fait l'objet d'attention de personnes ou d'États qui sont parfois considérés comme illégitimes? Et c'est un des paradoxes, et ma réponse est que ce n'est pas parce qu'une mobilisation populaire légitime fait l'objet de tentatives d'instrumentalisation de la part d'acteurs politiques qui le sont moins qu'elle devient illégitime. On doit être capable, c'est le défi des intellectuels, de ne pas rester figé dans des automatismes réactifs de solidarité ou d'hostilité, et en l'occurrence de surmonter le caractère composite du front que défendent les citoyens syriens en lutte contre le régime de Bachar al-Assad.
Et on n'est pas obligé de choisir son camp quand on traite aujourd'hui du régime syrien, même si ça a peut-être été longtemps le cas. C'est peut-être ce qui est aussi compliqué, et ce qui a été compliqué et long à venir, c'est-à-dire que ce soit, là je le dis encore, du côté des journalistes ou des chercheurs, d'essayer d'avoir l'approche la plus... pas la plus neutre, on ne peut pas être neutre, mais en tout cas la plus honnête possible.
Oui, avec tout de même une limite. Si on transposait ce conflit dans d'autres périodes de l'histoire, je dirais, on ne peut pas dire qu'il faut faire 50 minutes pour les canons et 50 minutes pour les cratères. On ne peut pas faire 50 minutes pour les victimes et 50 minutes pour le bourreau. Et moi, je me raccroche toujours à un vieux principe qui date de l'époque où j'étais dans la cour de récréation, c'est qui c'est qui a commencé. Donc, qui a commencé à faire un usage illimité de la violence, il y a tout de même, me semble-t-il, un camp que l'on peut désigner un peu plus légitimement que l'autre.
Et c'est ce qu'on arrive très bien à comprendre. Donc, dans ce livre, Pas de printemps pour la Syrie, que vous dirigez en compagnie de Bruno Paoli. Merci beaucoup, François Burga. Votre livre, donc, aux éditions La Découverte, que vous dédiez aux Syriennes et aux Syriens. J'imagine que c'est à l'ensemble des Syriennes et des Syriens,
bien
quelle
sûr.
Que soit leur appartenance religieuse ou leur camp politique. Merci beaucoup d'avoir participé à ces matins. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire.